Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa, bienvenue dans Biotope, une émission financée par BioVallée qui traite de considérations d'économie sociale et solidaire, transition énergétique, agriculture bio. Et aujourd'hui, nous allons parler de transport avec Didier Jouve, conseiller régional, président de la commission finances à la région Rhône-Alpes. Il fait partie du comité de ligne SNCF et on va parler aujourd'hui de solutions envisageables pour faire en sorte qu'il y ait une offre globale de transport raisonnable dans la vallée de la Drôme. Monsieur Jouve, bonjour.
Bonjour.
Alors donc, originellement, nous devions parler du train et puis vous avez préféré parler d'une offre globale de transport. Qu'est-ce que ce terme ?
Eh bien voilà, quand on parle du train, on parle d'un moyen de transport et on intéresse beaucoup les techniciens du transport. Mais en réalité, la vraie question, c'est comment les gens peuvent-ils aller d'un point à un autre ? Comment est-ce qu'ils peuvent aller de leur domicile à leur travail ou tout simplement faire un déplacement familial. Et la question que les gens posent, c'est surtout celle-ci, et non pas la question très technique de savoir qui fait quoi dans le domaine des transports. Et donc, je crois que quand on a des responsabilités politiques, il faut qu'on s'intéresse d'abord aux besoins des gens. C'est toute l'idée que j'avais en vous répondant sur ce point. Bien sûr qu'on parlera du train, et c'est complètement structurant de la vallée. En même temps, j'ai vraiment envie qu'on parle de la façon dont on va organiser tout ce qu'on a sous la main pour que les gens puissent plus facilement circuler dans notre vallée de la Drôme.
Donc plutôt que de mettre l'accent sur un type ou un autre de transport, savoir comment articuler tous les types de transport pour tous les besoins et lister les usages.
Voilà, alors on a bien tous compris qu'on est dans un secteur rural très dispersé géographiquement, donc il est évident qu'on n'aura jamais du train qui ira de partout, qu'on n'aura jamais même des cars qui pourront aller de partout, et que forcément on va être obligé d'articuler entre différents modes de transport pour créer une offre qui va d'un bout à l'autre. Et ça demande un peu plus de réflexion que de simplement mettre en place une ligne SNCF ou une ligne de bus. Il y a en fait énormément d'engins de toutes sortes qui circulent dans cette vallée et qui pourraient être beaucoup mieux utilisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Évidemment qu'il y a des trains. À mon avis, il n'y en a pas assez. Je suis d'ailleurs en train de me battre pour qu'on ait une offre plus sérieuse, plus complète en matière de trains. Donc ça, c'est un chantier que je mène en tant que président du comité de ligne pour convaincre à la fois mes collègues de la région qu'il faut mettre un peu plus d'argent dans la vallée de la Drôme et pour convaincre la SNCF et Réseau Ferré de France qu'il faut qu'ils s'organisent en conséquence, parce que ce n'est pas si facile que ça.
Alors, je vous prie de m'excuser, soyons précis. Alors, en ce moment, combien de trains circulent et combien vous espéreriez qu'il y en ait ?
Alors, actuellement, il y a une offre de trains qui est organisée par la région PACA et qui est cofinancée par Rhône-Alpes. Mais ce sont des trains, tout le monde a pu le constater, sauf celui peut-être de midi et quart, qui ne servent pas vraiment les Diois. Parce que ce sont des trains qui passent à des horaires qui ne sont pas forcément très évidents. Il y a celui du matin qui est utilisable. Et celui du midi, malheureusement, PACA ne veut plus le faire parce que ça ne leur sert pas. Ce qu'il faut voir, c'est que PACA utilise des trains pour emmener les gens au TGV. Ils n'ont pas du tout les mêmes besoins que nous. Nous, on a besoin de trains pour que les usagers puissent aller à Valence et en revenir. Et ce n'est pas du tout la même fonctionnalité.
Pour leur travail, par exemple ?
Pour leur travail, par exemple, ou parce qu'ils ont quelqu'un à visiter, enfin, ou pour des tas de raisons, des problèmes de santé, etc. Ou tout simplement pour faire leurs courses. Mais en tout cas, ils ont besoin d'aller-retour qui soit calé sur des demi-journées pour dire je vais le matin à Valence ou j'y vais l'après-midi ou j'y vais pour la journée. Et ils n'ont certainement pas besoin des horaires qu'on nous propose actuellement qui ne sont pas gérables, qui ne correspondent pas vraiment aux nécessités. Donc là, sur ce chantier-là, je suis très clair, je pense arriver, Et c'est un chantier. Je peux vous dire que les réunions techniques, financières, etc., il faut les multiplier pour y arriver. Je pense arriver, je me bats pour ça, pour qu'on ait, à partir de décembre 2013, un service avec 3 allers-retours par jour, je dis bien des allers-retours, donc un aller-retour du matin, c'est-à-dire que le matin, avant le début du travail, on puisse aller à Valence, ou alors quand on est valentinois, venir travailler à Die, un aller-retour de midi et un aller-retour du soir, pour qu'on ait quelque chose qui fonctionne en matière de train. Ça va énormément améliorer l'offre, qui pour le moment est complètement bizarre, mais ça ne va pas suffire. On a aussi, dans cette vallée de la Drôme, des noyades de cars qui circulent. On a des cars scolaires qui rendent un service, qui souvent sont obligés après de revenir à vide ou de faire des circuits, ou même des fois d'être arrêtés jusqu'à ce qu'ils attendent midi, hein, tout le monde connaît ça. Et puis on a un certain nombre de cars qui sont financés par le Conseil Général, c'est les fameux omnibus qui mettent environ 1h50 pour faire 10 Valence. Je ne parle même pas de Luc, dans ces cas-là, on est sur des temps qui sont évidemment encore plus longs. Et on a quelques cars dits express, mais qui ne sont pas vraiment express. Sur ce chantier-là, moi ce que je souhaite, c'est qu'on sache au maximum articuler cette offre et la rendre accessible et la rendre connue pour que tout le monde puisse en profiter. Articuler cette offre, ça veut dire quoi? On regarde les horaires, on se débrouille pour combler les trous. On fait en sorte qu'il y a un maximum d'usage possible de ces cars qui sont déjà là, qui sont déjà payés, qui roulent et dans lesquels on met du gasoil. Et donc ça, c'est existant. Articuler, faire en sorte que ça soit mieux utilisé. Ça demande un peu de travail de coordination entre les services de la région et du Conseil général notamment.
Alors justement, si je me permets encore une fois de vous interrompre, quels sont les interlocuteurs qui peuvent avoir une influence sur le nombre de trains? Alors avec qui vous négociez?
Pour le nombre de trains, il y a 3 interlocuteurs. Il y a la région qui paye ses trains, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la région qui paye, la SNCF étant un fournisseur de services. Il y a la SNCF qui opère ses trains et qui a du mal, parce qu'actuellement, il manque de matériel au niveau de Rhône-Alpes. Ils n'ont pas assez acheté de matériel dans les années précédentes. Et maintenant, quand on leur demande un train en plus, ils nous disent « mais là, je l'ai demandé pour 2013, on ne l'a pas obtenu ». Parce qu'en 2013, ils ne savent pas nous faire un train supplémentaire parce qu'ils n'ont plus assez de matériel en Rhône-Alpes pour le faire. C'est leur réponse. Ça, c'est un vrai problème, hein. SNCF. Et puis, bien sûr, il y a Réseau Ferré de France, qui est le gestionnaire de la ligne. C'est lui qui détermine à quel moment on a le droit de passer avec un train sur une ligne. Et ça, c'est compliqué aussi. Vous en doutez bien, pas dans la partie Livron-Veynes, où il y a très peu de trains qui passent, donc on n'a pas de souci. Mais à partir de Livron et jusqu'à Valence, là, on est sur la grande ligne. Et bien évidemment, il faut pouvoir, entre guillemets, se glisser entre la myriade de trains qui vont du nord au sud de la France et de l'Europe. Et donc, c'est assez compliqué aussi pour RFF de faire de l'offre de sillon, ce qu'on appelle un sillon. C'est un moment où on a le droit de passer qu'un train. C'est assez compliqué. Donc, on a ces 3 interlocuteurs à faire travailler en même temps. J'ajoute que dans le cas de Réseau Ferré de France, on a un autre souci sur le secteur. C'est que Réseau Ferré de France a un programme de travaux d'amélioration de la ligne. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On les encourage. Sauf que quand même, depuis des années, ces travaux dispersés sur la ligne font qu'au moins 2 mois par an, pratiquement, on n'a plus de service ferroviaire. Donc, ce que j'ai demandé à RFF, c'est que quand on aura le nouveau service dit 2014, qui va démarrer en décembre 2013, RFF se soit organisé pour nous faire une année sans travaux. Qu'au moins une année, on puisse relancer un service tout neuf, bien fichu, avec 3 allers-retours bien cadrés, et qu'on ait une année sans travaux pour qu'on puisse en profiter à plein. Voilà l'objectif que j'ai sur le ferroviaire. Sur les bus, la situation, c'est qu'il faut articuler le Conseil général et la région, et à l'intérieur du Conseil général, l'offre transport voyageurs et l'offre transport scolaire. Il y a un vrai travail. C'est pas simple non plus, les scolaires sont prioritaires, mais c'est quand même dommage de ne pas mieux utiliser cette ressource qui existe. Admettons qu'on ait atteint nos objectifs pour le train et pour les cars, ce qui est déjà un beau chantier. On n'a pas pour autant résolu le problème dit du dernier kilomètre ou du premier comme on veut, c'est-à-dire depuis l'arrêt jusqu'à chez soi, dans un territoire rural, le chez soi peut être à 2 ou 3 kilomètres de l'arrêt de bus le plus proche. Il faut un peu être imaginatif en la matière. Et là encore, on a des choses qui peuvent être développées, je vais en citer 2 ou 3. Bien évidemment, on en parle beaucoup, le covoiturage. Le Conseil général a commencé à travailler sur la question. La région accompagne aussi cette action. Mais le covoiturage, ça consiste à tomber d'accord avec des gens sur des horaires à peu près réguliers et pour se dire on partage la voiture ensemble, etc. C'est très intéressant pour les gens qui ont des horaires fixes. qui se rendent tous les jours à leur travail quelque part. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Ça ne règle pas la question du transport inhabituel ou à des horaires où il y a moins de monde. Il y a une autre possibilité pour partager des automobiles. Ça s'appelle l'autostop participatif. Ça consiste à faire en sorte que des membres d'une association, soit parce qu'ils sont chauffeurs, soit parce qu'ils sont demandeurs d'être conduits, sont adhérents d'une association, donc se reconnaissent mutuellement, et lorsqu'ils ont besoin de se faire transporter, se mettent à un endroit précis. On peut créer un arrêt à la sortie d'Audi et savoir que cet arrêt d'autostop participatif, il est fait pour les gens qui vont à Cray ou qui vont à Valence. Les gens se mettent à cet endroit-là, ils sont munis d'une vignette qui permet de les reconnaître, ils ont une sorte de carte colorée qui permet de les reconnaître, et sur la voiture, il y a aussi un autocollant de la même association. Ça permet à ce moment-là d'initier une relation claire entre autostoppeurs adhérents d'une association. Et participatif, parce que la personne qui va monter dans la voiture va participer aux frais du voyage. Et du coup, c'est aussi un avantage pour le chauffeur qui amortit en quelque sorte un peu ses dépenses d'essence. Donc on a un système là qui peut être très complémentaire et qui peut apporter une offre dans les trous horaires où il n'y a pas de transport en commun. Un exemple actuellement, on le sait, a dit, quand on a eu le malheur de rater le car de 8h02, on est cuit jusqu'à 11h30. Ça aussi, c'est un problème que je veux résoudre. Mais en ce moment, on aurait de l'autostop participatif qui fonctionnerait, ça nous aiderait beaucoup. Et puis, on a besoin de faciliter la vie aux gens qui vont décider de prendre, par exemple, un vélo ou un vélo électrique pour aller à l'arrêt de bus le plus proche, parce qu'ils ont envie de leur retrouver leur vélo le soir en rentrant. Si on ne met pas en place des systèmes qui permettent de protéger ces vélos, les gens ne les prendront jamais, évidemment. Donc, si on veut vraiment que ces arrêts soient utilisés, il faut qu'on développe ce qu'on a su faire dans quelques gares, mais qu'on développe plus largement, c'est des garages sécurisés qui permettent aux gens, en toute tranquillité, de laisser leur vélo le matin et de le retrouver le soir. Et vous voyez que si on articule tout ça, des trains bien fichus, des cars bien utilisés, bien recalés sur des horaires, bien régulés, du covoiturage, de l'autostop participatif et des systèmes pour protéger les deux roues, pour atteindre les arrêts, si on articule tout ça et qu'on utilise en plus les moyens modernes de télécom, les smartphones, etc., qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des bonnes réactivités, de savoir qui est là, qui peut servir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver bientôt, eh bien, si on fait tout ça, on peut avoir un très bon niveau de service, même dans une zone rurale, comme le Diois.
Alors c'est très intéressant, et je voudrais revenir un petit peu en arrière, Monsieur Jouve, sur les moyens qu'auraient les citoyens de la vallée de la Drôme de participer aux négociations avec les interlocuteurs ayant une influence sur ce problème des transports. On a évoqué très brièvement tout à l'heure le comité de ligne. Est-ce que vous pourriez un peu nous en parler ?
Oui, actuellement il y a déjà deux endroits où les citoyens on voit au chapitre et où je les invite fortement à être encore plus présents qu'aujourd'hui. C'est évidemment ce comité de ligne, je vais vous en parler tout de suite, et puis c'est également le conseil local de développement. Alors, le comité de ligne, il a été construit à l'initiative de la région pour justement que ça ne reste pas toujours entre techniciens et que les gens puissent dire tout ce qu'ils ont à dire. Ça concerne la ligne SNCF. Ça rassemble Réseau Ferré de France, la SNCF, les services de la région et on invite évidemment à ces comités de ligne à chaque fois l'ensemble des élus locaux et c'est ouvert au public. Et il y a aussi bien sûr les associations qui représentent les usagers. Nous avons la chance dans le Diois d'avoir un représentant très actif qui s'appelle Bernard Collignon et qui est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts les questions de transport et qui participe à toutes ces réunions et qui défend fort bien les demandes des usagers. Donc ça, c'est le comité de ligne. Il se réunit deux fois par an. D'ailleurs, la prochaine réunion est le 28 novembre à Eure. Elle était au printemps à la cave coopérative, a dit. Elle se déplace tout au long de la ligne. Chaque année. Dans ce comité de ligne, on fait plusieurs choses. D'abord, on fait le point sur le fonctionnement de la ligne dans la période écoulée. On regarde les statistiques de fréquentation, on regarde si ça monte, si ça descend. Je peux vous dire que depuis des années, ça ne fait que monter. Et là, je souligne ce point parce que ça ne fait que monter alors que les conditions de l'offre sont très mauvaises. Et malgré tout, ça monte.
Vous avez des notions de taux de remplissage ?
10% d'augmentation chaque année.
Mais par exemple, en ce moment, quel est le pourcentage d'utilisation des trains qui descendent et qui montent, vous savez ?
Non, parce qu'on ne nous le présente pas comme ça. C'est-à-dire qu'on ne nous fait jamais le rapport entre le nombre de places et le nombre d'usagers. Ce que j'ai dans la tête, et il faut le savoir, c'est qu'actuellement, le taux d'usage du train rapporté à la population dans la vallée de la Drôme est supérieur à la moyenne régionale. Ça veut dire que nous utilisons plus le train que d'autres en Rhône-Alpes et de façon supérieure à la moyenne. Donc on est des bons utilisateurs de train. Et je dis qu'on est même très bon quand on compare ce niveau d'utilisation avec le niveau de service. Parce que le niveau de service, par contre, lui, il est mauvais. Il faut savoir que par rapport au nombre de trains qui sont inscrits sur les fiches horaires, je prends... je sais que j'ai un train à midi, je le multiplie par 365 et je dis j'ai 365 trains de midi et j'additionne tout ça. Si je fais cette addition de l'offre théorique qui figure sur les fiches horaires et que je la compare à la réalité de cette offre, combien de trains j'ai eu réellement qui sont arrivés à l'heure, disons à moins d'un quart d'heure, eh bien je suis à 50%. C'est très peu. Je n'ai que 50% de l'offre qui est réellement correctement servie à ce jour. Soit parce que le train n'existe pas, soit parce qu'il a été supprimé, soit parce qu'il a eu un retard trop important, soit parce qu'il y a des travaux, pour des tas de raisons. Mais la réalité est celle-ci, on la partage avec SNCF, et un des objectifs, c'est de complètement réduire, c'est une vraie fracture de l'offre. Donc dans ces comités de ligne, on fait le point sur les fréquentations, on fait le point sur les travaux, on fait le point sur les horaires, on fait le point sur les services en gare, on fait le point sur ce qu'on imagine pour l'avenir, et on fait une liste de questions, liste à laquelle SNCF, RFF et Région devront répondre pour le comité de ligne suivant. Ça, c'est bien organisé. De sorte que si quelqu'un va poser une question, elle est enregistrée, elle est mise dans un tableau et le coup d'après, il y a la réponse qui est apportée. Il n'y a rien qui passe à la trappe, entre guillemets.
Et est-ce que ce comité de ligne a de l'influence ?
Oui, ce comité de ligne a l'influence parce qu'il met les responsables techniques au contact de la demande de la population et des élus locaux. Et du coup, ce qui est parfois théorique, hein, quand on est dans un bureau en train de regarder des fiches horaires, etc., ou de regarder des crédits, devient très concret quand on est avec les gens, avec les usagers qui posent des questions. Donc moi, je suis convaincu que ces comités de ligne sont utiles. Ils ne sont pas décisionnaires, on est bien d'accord, mais quand ils fonctionnent bien, et moi je m'emploie à ce qui fonctionne le mieux possible, ils disent des choses aux décideurs que ces décideurs sont bien obligés de prendre en compte.
Bien inspiré de le faire, en tout cas.
Il faut le faire, ça fonctionne de mieux en mieux, et moi j'invite les gens à y participer. De toute façon, c'est vraiment pas du temps perdu, c'est très intéressant. Les informations qui sont fournies à ces comités de ligne sont des informations très précises. Et puis, pour le coup, quand on est citoyen, on a sous la main à la fois les élus, les techniciens, les responsables de Réseau Ferré de France, de SNCF, les techniciens de la région. On peut poser des questions à des gens qui sont censés pouvoir fournir des réponses. Donc ça, c'est important. C'est un endroit important pour parler du TER. Parce que le comité de ligne ne parle que du TER, c'est-à-dire du train express régional, ou, quand le train ne fonctionne pas, les cars qui sont mis en substitution. Mais rien que sur ces deux sujets, il y a beaucoup à dire. Et puis, il y a le conseil local de développement. En réalité, il y en a deux dans la vallée. Il y a celui du Diois et il y a celui dit de vallée de la Drôme, qui est situé à Cray. Ces deux conseils locaux de développement travaillent sur tous les sujets du développement local et surtout travaillent en lien avec les contrats de développement durable de Rhône-Alpes. Il y en a deux contrats aussi, un en bas, un en haut, et travaillent en lien avec le grand projet Biovallée. Donc les propositions qui peuvent être faites dans le cadre des conseils locaux de développement sont forcément portées à connaissance des élus et les élus sont bien sûr tout à fait invités à les prendre en compte. Je crois que c'est dans un de ces deux espaces, il y a matière à faire avancer la cause des transports.
Si je peux me permettre, M. Jouve, je vais vous poser tout simplement la question un peu naïve, je le reconnais, de savoir pourquoi, si on veut remplir les trains, y a-t-il autant de cars ? Et comment justifie-t-on cette myriade de cars dont vous parliez par rapport au peu de trains dont nous disposons ? C'est plus cher le train ?
Le car, ça coûte 3 euros du kilomètre, à peu près, en facturation. Le train est facturé par SNCF à la région Rhône-Alpes 21 euros du kilomètre, 7 fois plus. Pour vous faire une idée, le prix du car, c'est le prix que RFF facture le droit de passer sur la voie ferrée, 3 euros. Donc vous voyez, il y a une très grande différence de prix. Mais ça n'explique pas tout. Il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs autorités organisatrices de transport. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des cars qui sont opérés par le département de la Drôme, qui a sa politique. Et puis, il y a des trains qui sont opérés par la région. Ça fait très longtemps que je pose la question de l'utilisation du train pour des transports scolaires. Je la pose avec d'autant moins de naïveté que quand on regarde bien quand même la situation dans la vallée de la Drôme, en tout cas, le lycée de Cray, il est en face de la gare, et le lycée de Die, on ne peut pas dire qu'il en soit très éloigné. Donc, ça ne serait pas non plus complètement hallucinant d'utiliser un peu plus le train pour faire du transport scolaire, mais là, ça renvoie à une compétence du Conseil général, puisque c'est en France les conseils généraux qui sont chargés d'organiser le transport scolaire. Voilà. Donc, le Conseil général a fait le choix du CAR, et ça depuis longtemps. Peut-être un jour qu'il réfléchira à la façon dont on peut, sur certains horaires au moins, peut-être les plus chargés, choisir un autre système.
Et si on intègre d'autres considérations comme effectivement le bilan carbone, j'ai cru entendre dire que le bilan du train était meilleur que celui du bus.
Il est bien meilleur. Il est bien meilleur et d'ailleurs, il suffit d'aller sur des sites comme ceux de l'ADEME pour vérifier ces données qui sont très connues maintenant. Le train est le mode de transport qui a le meilleur bilan carbone après la péniche. Voilà. Et après, dans l'ordre, vous avez les autres modes de transport. Bien évidemment, c'est la voiture individuelle avec une seule personne dedans qui est le mode de transport le moins économe. Donc, on a un bon bilan sur le train. Et puis, j'ajoute quand même, le train, c'est un bilan sécurité sans égal. C'est un confort qui n'est pas offert dans le car en termes d'accélération, de décélération, de virage, etc. Donc, il y a des gens qui sont tout à fait prêts à prendre le train et qui ne prendront jamais le car. C'est comme ça. Et il faut savoir aussi que le train, c'est tout temps.
Alors pourquoi privilégie-t-on le car? C'est le stricto sensu, le coût, qui fait la différence?
Oui, moi je crois qu'actuellement, ce sont des démarches qui ne portent que sur le montant qui est en bas de la facture, mais sans approche globale. D'autant plus que je suis, pour ma part, convaincu que si on utilisait davantage le train, on en ferait chuter le prix. Parce qu'évidemment, il y a des charges fixes. Cette voie ferrée qui est tenue, entretenue, hein, il n'y a pas de problème, elle est entretenue et on y fait même des travaux. Pour y faire passer 2-3 trains par jour, c'est quand même dommage. Et là, il y a une vraie question également. Moi, je connais le coût d'une motrice, puisque la région en achète. Un TER tout neuf, ça coûte 7 millions d'euros. Mais ça dure 50 ans. Donc, il faut ramener aussi cet investissement à la durée de vie. Ça fait des millions de kilomètres, un train comme ça, sans problème. Ça veut dire que si on prenait les questions avec un peu plus de vue d'ensemble, un peu plus de perspective dans le temps, si on intégrait mieux les paramètres écologiques, si on intégrait mieux la qualité de service,
la sécurité,
etc., la régularité, parce que si on n'a pas de problème de travaux, etc., les trains, c'est vraiment qui peuvent, qui neigent, qui ventent, ça passe. Et si on intégrait le fait qu'une vraie offre de transport collectif, ça favorise le développement économique et l'implantation des entreprises, si on prenait tout ça en compte, je pense qu'on verrait les choses autrement. C'est ce que j'espère arriver progressivement à faire. Mais il y a du chemin, parce que la logique de la facture, elle est quand même prédominante, indépendamment de toutes les autres considérations.
Et est-ce que vous pensez que le train va finir par avoir sa revanche par rapport aux autres moyens de locomotion ?
Moi, je suis convaincu que le train est promis un bel avenir, parce qu'il en a tous les atouts. Je suis convaincu qu'il y a un vrai chantier à la fois politique, économique, social pour ce développement. Et je suis surtout convaincu d'une chose, c'est que quand on veut que les choses bougent, il faut s'employer à tous les niveaux à les faire bouger. Il ne faut pas rester, comme on dit en Provence, les pieds tanqués, mais il faut faire avancer les choses. Il faut changer des habitudes, il faut secouer quelques poussières, mais j'ai confiance. Je crois que, notamment si les citoyens s'y intéressent davantage, ils mettent un peu, ne serait-ce qu'une heure ou deux de temps en temps, hein, pour dire « faites-moi bouger tout ça », je pense qu'on peut arriver à faire des belles choses dans notre territoire. C'est un territoire relativement facile à desservir en termes de transport, parce que c'est une vallée en arête de poisson, et techniquement, ce n'est pas très difficile. Il faut juste un peu plus de volonté politique.
Et rappelez donc aux citoyens qui peuvent donc participer au comité de ligne SNCF et puis aux travaux des comités locaux de développement qui travaillent sur ce sujet aussi.
Voilà, tout à fait.
Monsieur Jouve, merci d'être passé pour parler un petit peu d'une offre globale de transport dans la vallée d'Adrome et en particulier du train. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Capsule. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Je suis en compagnie de Tibert Vink, responsable de l'Herbier du Diois, une entreprise qui s'est installée à Châtillon-Diois et qui travaille dans les plantes aromatiques. Cette entreprise a ceci de notable qu'en 1994, elle a lancé le dispositif Prime Verte qui soutient les salariés qui n'émettent pas de CO2 pour se rendre sur leur lieu de travail. Monsieur Tibert Vink, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de ce dispositif ?
Oui, donc il s'agit d'une aide pour les différents salariés qui viennent 75% du temps à l'Herbier du Diois sans émettre de CO2, donc par des moyens de locomotion doux, que ce soit à vélo, à pied, en voiture électrique. Et nous les stimulons en offrant une prime de 100 euros chaque mois pour essayer de sensibiliser les gens qu'au quotidien, nous pouvons agir par des petits gestes et ainsi d'avoir une action qui globalement est positive, c'est-à-dire sur une année comme en 2011, nous avons effectué 31 000 km de vélo à la place de transport en voiture et qui nous semble, pour une petite entreprise comme nous, très intéressant. C'est aussi un moyen d'amener la discussion avec les différents salariés que nous avons, une trentaine de collaborateurs, sur l'écologie et les petits gestes du quotidien. Étant donné que nous travaillons des produits biologiques, il nous semble essentiel de sensibiliser notre personnel à l'écologie et à ces gestes du quotidien. Aujourd'hui, cette prime, elle nous coûte 12 000 euros par an, il me semble. C'est, à mon sens, quelque chose de positif du fait déjà qu'on n'a pas eu besoin de construire un trop grand parking devant l'herbier. L'économie de place, un vélo est plus facile à stocker que des voitures. D'autre part, les personnes qui effectuent donc tous les jours le trajet ou à pied ou à vélo ont des effets positifs du fait de la petite sortie qu'ils font tous les jours. Des personnes font 4 ou 8 kilomètres par jour de vélo. Et je pense que c'est quand même essentiel d'avoir une sorte de trait d'union entre la vie professionnelle qui peut être avec une certaine pression ou inversement la vie privée. Voilà, ça permet d'aérer un peu entre les deux mondes. Donc c'est pour nous une action qui peut porter ses fruits à long terme pour l'entreprise, bien qu'on doit investir un petit peu d'argent chaque année.
Combien de personnes dans votre entreprise utilisent ce dispositif ?
Bien sûr, ça dépend des périodes. Des personnes qui le font vraiment 12 mois sur 12, c'est 5-6 personnes. Et l'été, il y a plus de la moitié de l'entreprise qui se déplace donc à vélo. Je pense que c'est une action qui est positive et qui est acceptée par l'ensemble des salariés.
Est-ce que ça vous a coûté quelque chose pour mettre en place cette mesure ?
Eh ben, pour être honnête, ce n'est pas moi qui l'ai mise en place. Je suis venu à l'entreprise seulement en 2004. C'est quelque chose qui s'est fait sur le temps, tout doucement. Au départ, c'était quelque chose qui était juste tacite entre les collaborateurs et le responsable de l'entreprise. Tout doucement, il y a un cadre qui a été fixé. Il y a une commission prime verte à l'entreprise qui est composée de 3 salariés qui débattent justement de cette prime et de nouvelles actions et qui essayent de garder un certain dynamisme dans cette prime verte. Et forcément, il y a une charte aujourd'hui qui a été rédigée pour l'ensemble des salariés. Donc, progressivement, on arrive à quelque chose de beaucoup plus abouti, alors que les premières années, c'était juste, il y avait 4 personnes et ça s'est fait de fil en aiguille.
Vous m'avez dit 12 000 euros par an, et sinon, il n'y a pas d'autres frais concernant cette mesure ?
Non, aujourd'hui, c'est juste les frais de la prime. Personnellement, je suis convaincu que l'entreprise est gagnante. Comme je le disais, il y a une économie lors de la construction du nouveau bâtiment qu'on a construit en 2010. Voilà, les places de parking ont été réduites au minimum en faisant le pari qu'il y aurait toujours suffisamment de personnes qui viennent à pied ou à vélo. Et après, nous ressentons clairement un effet bénéfique du déplacement à vélo dans l'absentéisme de nos salariés.
Dernière petite question, qui contacter si d'aventure d'autres entreprises voulaient reproduire cette expérience ?
Déjà, nous avons sur notre site donc www.herbierdudiwa.com des informations concernant cette prime et ensuite, vous pouvez toujours par mail nous contacter à info@herbier-du-6-diwa.com.
Monsieur Dibervink, merci beaucoup.
Merci à vous.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Top. Un programme soutenu par BioValley.